On va lire plusieurs passages, notamment trois, qui seront les passages de référence. Et le premier se trouve dans un psaume, c'est le 89. Et ensuite, c'est dans le livre des Proverbes. Donc, nous lisons ensemble, soit vous suivez à l'écran pour cette lecture-là. Il y a d'autres lectures qui seront plus longues et sans doute vous écouterez, ou si vous avez une Bible, vous pourrez suivre avec moi également. Mais voici ce qu'il est dit dans le psaume 89, du verset 1 au verset 3. La semaine dernière, c'était pour ainsi dire le dernier culte pour beaucoup, et j'ai voulu mettre l'accent sur ce qui doit demeurer, ce qui doit rester comme un leitmotiv dans notre marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne. Et c'est ce que nous avons essayé de partager pendant 12 ans, à savoir que il faut rester attaché à Dieu et il y a une vie pratique incontournable. On parle de sainteté, on parle de piété, on parle d'une vie de prière, d'une vie de consécration. Donc on a exposé toutes ces choses-là. Et puis un deuxième volet différent, mais je voulais vous apporter autre chose à vous ce matin. C'est retenu dans ce titre. La force des justes. Et vous allez voir au travers de ces passages qu'il y a parmi toutes les choses éternelles dont la Bible nous parle, il y en a deux qui ressortent dans ce passage, dans ces deux passages. La première de ces choses, c'est la bonté de Dieu qui est éternelle. Et puis la deuxième chose qui nous fait réfléchir, c'est que le juste a des fondements éternels. De juste à des fondements éternels. Et je vous laisserai ceci donc sur votre cœur. Nous lisons ces passages. Psaume 89, verset 2. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. » Et le livre des Proverbes, donc chapitre 10, Livre des Proverbes, chapitre 10 et le verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Amen. Dans le premier passage, c'est un psaume de cet homme qui s'appelle Ethan. Ethan nous rappelle que Dieu est au ciel. Et que finalement, sa justice, mais on pourrait parler de sa fidélité et de bien d'autres choses, s'exerce dans les cieux, mais s'exerce aussi sur la terre. Et s'exerce sur la terre, par définition, forcément, auprès de tous ceux qui aiment, qui l'aiment et qui le recherchent et qui l'invoquent. Et vous allez voir avec moi qu'il y a forcément une différence entre le méchant, et on ne va pas dire le gentil, mais on va dire le juste, pour utiliser les expressions bibliques. Le méchant dans la Bible, c'est celui qui fait le mal, mais c'est celui également qui marche et qui vit sans Dieu. Et le juste, vous comprenez par là celui qui a été justifié, celui qui va réagir d'une façon juste, celui qui va être inspiré, c'est celui qui marche en demandant conseil à Dieu, qui veut s'appuyer sur les conseils de Dieu et qui, de fait, n'a pas du tout la même vie. Ils ne vivent absolument pas pareil. Et nous n'avons pas tout lu, mais c'est intéressant dans ce proverbe chapitre 10, il y a notamment une différence qui est faite en plusieurs versets, du verset 24 jusqu'au verset 30, et c'est ce que je vais vous lire maintenant. Proverbe 10, verset 24 à verset 30, il y a la différence entre le méchant et le juste. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Amen. Voyez où se situe la force des justes dans le recours qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Parce que si je m'attends à Dieu, je vais être satisfait. Ma vie sera forte et elle sera stable. Elle pourra même s'allonger d'ailleurs si la vie des méchants est abrégée. Dieu donne et peut donner de nouveaux jours à celui qui s'attend à lui. Vous avez un homme de la Bible qui en a fait l'expérience, un roi, le roi Ézéchias, qui a failli mourir, et Dieu va lui donner 15 ans de plus. Donc la vie des justes peut être rallongée, peut être guérie d'une maladie incurable, et plusieurs pourraient rendre ce témoignage. Et à une certaine époque, c'était, j'ai presque envie de dire, monnaie courante que des personnes racontaient de quelle façon Dieu les avait délivrés d'un cancer stade terminal. Dieu fait des miracles et Dieu prolonge la vie de cette façon-là. Marcher avec Dieu et être juste, avoir été justifié, c'est connaître la joie et le bonheur, c'est être à l'abri. J'ai envie de dire, derrière de solides remparts, on l'a chanté d'ailleurs, de solides remparts en parfaite sécurité. Et pour ainsi dire, notre avenir est sûr, notre avenir est certain. Vous avez vu en parallèle la situation du méchant ? Là, en parallèle, la situation du méchant ? Mais malheur au méchant, malheur à lui, le pauvre, il va vivre de malheur en malheur, il va ne connaître que des peines, que des difficultés, que des souffrances, frustration, colère, tourment, une vie raccourcie, déception, illusion, ruine, désolation, pas d'avenir. C'est ce qui se résume dans les quelques versets que nous avons lus. On ne peut pas imaginer, je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas imaginer ma vie autrement qu'à droite. À droite sur la carte. Hein. Vous la voyez où ? À gauche ou à droite ? Là, on ne peut pas être normand et dire « moi, je suis au milieu hein, » ou « suisse hein. ». Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, un jour oui, un jour non. Non, je ne peux pas imaginer ma vie autrement qu'avec ce que Dieu nous donne finalement. Et quelque part, ça reste tout de même un choix, vous le savez très bien, un choix que l'on fait. La conversion, le jour où on a dit oui à Dieu, le jour où on a donné notre vie à Dieu, le jour où on lui a demandé de pardonner nos fautes, je ne sais pas, est-ce que certains dans cette salle sont baptisés depuis 30 ans et plus ? Levez la main, voir. Ça en fait quelques-uns quand même. Hein ? Depuis 40 ans et plus. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a pas mal. Hein ? 50 ans et plus. Encore ? Levez bien la main, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 ans et plus. Vous aussi ? 2. Ben, j'y vais. Hein. 70 ans et plus. 1. Ouais. On applaudit le Seigneur. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Parce que si on est debout, c'est grâce à lui. Hein. Si on est encore vivant, c'est grâce à lui. Et si on a encore la foi, c'est grâce à lui. Mais voyez, la conversion, c'est le choix de toute une vie, dans le fond. Quand on donne sa vie à Dieu, ce n'est pas pour passer une mauvaise épreuve, ce n'est pas pour passer une situation difficile. Certains, lorsqu'ils vivent dans les difficultés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rapprochent de Dieu. Et certains, pour être davantage exaucés, seraient même prêts à faire des « sacrifices », entre guillemets, des pèlerinages ou autre chose ainsi, en se disant « Dieu va m'exaucer ». Mais une fois que c'est fait, on reprend le cours de sa vie ? Non, la conversion, c'est le choix de toute une vie. Et la marche fidèle avec Dieu, c'est, j'ai envie de dire, la seule alternative. Et de vous à moi, le service pour Dieu, parce que vous servez Dieu tout comme moi et comme chacun de nous, si vous l'avez décidé. Eh bien, notre service pour Dieu, c'est une récompense qui est éternelle quand même. Dans la Bible, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez sans doute ce passage. Alors, on peut guère vraiment interpréter ce que peut bien signifier tout cela, mais il est quand même dit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Tribunal de Christ, récompense au ciel. Évidemment, on ne le fait pas pour ça. On ne fait pas et on ne sert pas Dieu pour avoir une belle récompense au ciel. On sert Dieu parce qu'on l'aime, n'est-ce pas ? Parce qu'on l'aime. N'empêche que le travail n'est pas vain, ça ne disparaît pas. Il y a quelque chose, un témoignage qui reste dans une lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, il va leur expliquer ceci. Je vous le cite, 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 8 et 9. Voyez, il y a une récompense, c'est totalement évident, c'est totalement logique cela. Maintenant, le juste, je dirais le chrétien, celui qui marche avec Dieu, ben, il puise ses ressources en Dieu dont les fondements sont éternels. Vous imaginez ? Il peut y avoir un ouragan, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir une tornade, on ne sera pas déraciné parce que les fondements sont éternels. Je ne sais pas jusqu'où ça peut puiser cela, mais ça va bien profondément. Les fondements de Dieu sont éternels, comme lui l'est d'ailleurs, et le juste, celui qui s'attend à Dieu, il aura ses fondements bien enracinés et il ne craindra rien. Alors, je mets en avant un autre passage, et je voudrais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît, dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ne regardez pas l'écran pour l'instant, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le passage en entier. Ecclésiaste, chapitre 11, et verset 1er. Nous lirons du verset 1er au verset 6. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. J'aimerais vous laisser ce passage, ces versets, et que vous le reteniez, parce que c'est l'essence même d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne heureuse. Servir, sans relâchement. J'ai mis quelques points à l'écran, en plusieurs diapos. Le premier des points que vous avez à l'écran, c'est ceci, ne pas s'appuyer sur ses propres raisonnements. Quand on sert Dieu, il y a des moments faciles et des moments difficiles. Il y a des évidences et puis il y a des incompréhensions. Il y a des choses qui nous paraissent on ne peut plus logiques et puis d'autres fois on ne comprend pas. Alors on est même prompt à élever la voix en disant « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi il m'arrive cela ?» Il y a une chose dans ce passage que je ne comprends absolument pas, c'est le verset premier. « Jette ton pain sur la surface des eaux, à la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. » Je vous mets au défi, pas cet après-midi parce qu'il va faire chaud, hein, mais vous montez à Charence, pas loin, juste à Charence. Vous allez au bord du petit étang, et puis vous y allez avec du pain, faut pas le faire, paraît-il, hein, mais vous jetez du pain dans l'eau, et puis vous revenez demain soir et vous allez voir où il est votre pain. Si vous le retrouvez, c'est qu'il était vraiment pas bon, ou je sais pas, il était à l'ail, les poissons ils aiment pas, je sais pas. Mais vous le retrouverez pas, le pain. Jette ton pain sur la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. C'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi, ou il y a que moi qui pense ça? Pour moi, c'est pas logique. C'est pas dans de l'eau, c'est pas dans une mer, dans un océan que je vais retrouver du pain que je vais jeter. Ça va se dégrader, ça va être mangé, ça va disparaître. C'est évident. Souvenez-vous d'une chose, dans la vie chrétienne, nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultats. J'insiste, obligation de moyens, parce que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, on l'a lu. Donc, on a des moyens à notre disposition, On peut parler, on peut sourire, on peut discuter, on peut téléphoner, on peut prendre des nouvelles des uns des autres. Et puis on a un cœur pour être sensible, sensibilisé. On peut prier, on peut intercéder, on peut combattre, on peut aider ceux qui sont autour de nous. On a plein de moyens à notre disposition pour servir à Dieu. Sauf que quelquefois, on a fait, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, auprès de quelques personnes, et ça n'a pas eu de fruit. Et là, on se dit, c'est décourageant. Je ne vois rien. C'est pas normal, mais comment ça se fait qu'il ne se passe rien ? Moi, je me dis que finalement, là où il nous arrive de dire, ça ne sert à rien, j'arrête, Dieu pourrait nous surprendre, parce que le temps pourra révéler autre chose. Peut-être que ce n'est pas du temps de notre vivant qu'on le verra. Sans doute, pour pas mal de situations, c'est ainsi. Mais n'empêche que cette semence qui est jetée dans les cœurs, qui est la semence de l'Évangile, la Bible dit qu'elle parcourt la terre avec vitesse, la parole de l'Éternel, mais qu'elle ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir achevé et accompli sa course. N'est-il pas vrai que même si nous n'obtenons pas le résultat que nous escomptons, c'est quand même le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous. Nous, il nous est demandé de dire, de parler, de témoigner. Et puis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On peut alimenter cette action du Saint-Esprit par la prière, en nous souvenant de ces personnes à qui l'on aura parlé, mais on est un peu comme cette personne qui va jeter du pain sur la face des eaux en disant, « Bon, on me dit de le faire, je ne comprends pas bien, mais on me dit que je vais le retrouver. » Et puis un jour, vous le retrouvez. Alors, quelquefois, c'est immédiat. D'autres fois, c'est quelques mois, quelques années après. Vous avez certainement vécu un témoignage comme ça, mais ça nous est arrivé quelquefois de recevoir des nouvelles de personnes qu'on avait perdues de vue depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ces personnes de nous dire l'impact que l'on avait eu sur eux. On n'en était même pas conscient. On ne l'avait même pas réalisé. Et on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Parce que Dieu fait des choses qui peuvent nous surprendre. Le deuxième point, c'est au verset 2. « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » J'ai intitulé cela « Ne pas thésauriser ». Il y a des gens qui, par la peur de manquer, limitent leurs actions. Comme je ne suis pas sûr d'en avoir assez, donc j'en fais pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de force, donc j'en fais très peu. Comme ça, je m'économise. J'ai pas beaucoup d'argent, donc je fais pas beaucoup d'actions, comme ça j'économise. Mais avec Dieu, ça marche pas comme ça. La preuve est faite ici, tout du moins à l'Assemblée, nous l'avons vu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On a fait énormément d'actions d'évangélisation et on n'a jamais manqué de rien. Au contraire. Chaque Assemblée générale, on s'est rendu compte que Dieu avait pourvu. Finalement, certains pensent que s'ils ne font rien ou pas grand-chose, ils perdent rien. C'est faux, c'est archi-faux. Avec Dieu, c'est archi-faux. Je dois faire et Dieu pourvoira. Amen. Je dois faire et Dieu pourvoira. C'est Dieu qui pourvoira d'une façon ou d'une autre. Il pourvoira. Dites-vous bien une chose, le temps perdu, il ne se retrouve jamais. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, ne dites pas « je vais le faire demain, après-demain ». Le temps d'aujourd'hui sera terminé. Demain, vous le ferez, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Certains ont inventé un proverbe qui les arrangeait bien. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain ? Mais je crois qu'il vaudrait mieux le remettre à l'endroit et dire pourquoi faire demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Et dans le service de Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a pas mal et nombre de choses à faire et on ne doit pas passer à côté de cela. L'apôtre Paul disait aux Romains chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons. » C'est ce qu'il est dit, marchons. Alors que Dieu nous aide à comprendre que ce n'est pas par l'économie que je sers Dieu, mais c'est par la consécration et en donnant et en me donnant, bien évidemment. La première chose que l'on donne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Plus que ce qui est matériel, c'est nous-mêmes. Et évidemment, c'est pour la gloire de Dieu. Troisième point, ce serait bien d'avoir l'intelligence des temps et on ne l'a pas forcément toujours. Au verset 3, il est dit « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Ça veut dire quoi tout cela ? Eh bien, quelquefois, on aurait bien besoin de savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a repris des réunions. Certains continuent par Internet. D'autres ont arrêté d'ailleurs Internet parce qu'il y a eu une forme de lassitude. Au début, il y avait des centaines de conversions. Maintenant, il y en a plus de connexions, pardon. Maintenant, il n'y en a plus que quelques dizaines. Donc, on avait trouvé la solution, mais ça a marché pour un temps. Et puis, il faut trouver une autre solution. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours essayer de trouver qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut retenir évidemment l'attention du plus grand nombre dans le sens de rendre témoignage à la fidélité de Dieu dans un monde qui en a tellement besoin. Plus que jamais aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime et que Dieu peut les aider, que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Alors, dans le livre des Chroniques, dans deux passages du livre des Chroniques, il y a deux passages intéressants. Le premier, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Il est parlé des fils d'Issacar. Et d'eux, on dira ceci, « Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire le peuple d'Israël. » Dans certaines circonstances, eux, ils ne savaient pas quoi faire, mais des hommes inspirés leur disaient, « Eh bien voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut orienter le peuple. » Alors, c'était pour la justice, c'était pour tout ce qui était terre à terre, pratique, la politique et tout ce que vous voulez. Enfin bref, ils avaient besoin d'être éclairés. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, ils allaient chercher auprès de Dieu le conseil et Dieu leur donnait évidemment la solution. Et dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 26 et au verset 5, il nous est parlé d'un roi, le roi Ozias, qui rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On a besoin de deux choses, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut avoir la bonne vision. Il faut que Dieu nous éclaire, il faut que Dieu nous montre dans quel temps nous sommes, comme le disait Paul aux Romains, mais qu'on en prenne bien conscience. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple par excellence évidemment, c'est le prophète Daniel. On dira de Daniel qu'il avait une intelligence supérieure. Et quand on lit le début du livre de Daniel, on comprend que c'est parce qu'il s'était attaché à Dieu, il recherchait Dieu, il n'avait pas voulu se souiller d'une quelconque façon et Dieu l'avait rendu plus intelligent que les autres. Eh bien, quand on a eu besoin d'avoir des réponses, on a été chercher Daniel. Et Daniel a exercé une influence incroyable sur plusieurs gouvernements qui se sont succédés et on compte plus d'un demi-siècle d'une gouvernance qui quand même était dans une main sur Daniel et dans l'autre auprès des rois qui se sont succédés. Mais quand même, Daniel a exercé une influence certaine et qui est vraiment reconnue. Aujourd'hui, je suis tellement gêné, pour ne pas dire triste, de ces gouvernants qui ont mis sur eux une veste que l'on appellera évangélique et qui, derrière, ont des comportements complètement insensés, voire de mauvais comportements, parce que tout cela jette un discrédit sur l'évangile et sur Dieu. Au Brésil, quand on parle des églises évangéliques, c'est moyen. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a des excès, et même au niveau des gouvernants, quelquefois, c'est pas un bon témoignage qui est rendu. C'est pas un bon témoignage. Daniel, lui, a exercé une bonne influence, parce que sa source était bonne. Sa source était bonne, et elle était continuelle. On a vraiment besoin d'être, je pense, ainsi. Alors, à une époque, nous avions rencontré, dans une église précédente, nous avions rencontré un monsieur qui était en campagne électorale, et il créait un nouveau parti basé sur des valeurs chrétiennes. Et donc, il était venu faire campagne dans les églises. Bon. Dans d'autres pays, c'est assez bien installé que des chrétiens occupent des postes très élevés dans des gouvernements. Moi, je ne parlerai pas de ça. Chacun est libre de penser la chose comme il le veut et de faire ce qu'il estime juste. La seule chose que je sais, c'est qu'à notre niveau, on peut de toutes les manières exercer une influence. Dans notre entourage, dans un milieu de travail, etc. Plus ça grimpe, et plus les pressions sont difficiles, et plus tenir le rang sera excessivement compliqué. Alors, il faut bien y réfléchir avant de vouloir grimper les échelons. C'est excessivement dur. On est dans un pays qui a quand même des valeurs maçonniques assez importantes. Donc, ça ne marche pas forcément très bien ensemble, tout ça. Le fait est qu'à notre niveau, on peut avoir de l'influence, mais on a besoin tous les jours de dire « Seigneur, alors, en quel temps nous sommes ?» Quand on regarde un arbre foudroyé et qu'on le voit écrasé, coupé en deux, étalé sur le sol, on ne se pose pas la question « Et si je viens l'année prochaine, est-ce qu'il sera droit à nouveau ?» C'est évident, il est par terre, il va rester par terre. Si on ne l'enlève pas, il restera là. C'est ce qu'on lisait dans ce fameux livre de l'Ecclésiaste. L'arbre reste à l'endroit où il est tombé, de toutes les manières. Et puis quand il y a des nuages, ça annonce la pluie. Ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, la pluie va tomber. Il y a des nuages sans eau aujourd'hui. Ça existe. Dans certains pays, il y a des nuages, ça gronde, mais ça ne pleut jamais. C'est désespérant. Mais la Bible parle de ces faux docteurs, de ces faux prophètes des temps derniers, de l'époque d'aujourd'hui. C'est Jude qui en parle en disant « ce sont des nuages sans eau ». Ils seraient porteurs d'un message, mais quand vous grattez, il n'y a rien du tout derrière. Que Dieu nous garde de devenir un nuage sans eau. Que Dieu nous garde d'être ainsi. Ayons l'intelligence des temps. Et puis, même si les temps sont difficiles aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, profitons des événements plus que nous serions obligés de les subir. Aujourd'hui, nous subissons tellement les événements. N'est-il pas possible que Dieu se glorifie malgré cette situation-là ? Moi, je crois que oui. Alors, profitons de ces événements plutôt que de les subir. Demandons à Dieu, dans cette situation, elle est tellement difficile, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y aura toujours quelque chose à dire dans des moments douloureux, des moments de maladie, d'obsèques, des endroits où on s'est trouvé, accidents, etc. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On demande à Dieu de l'aide et Dieu peut nous aider. Ce sont de mauvaises circonstances, ce sont de mauvais moments, mais Dieu peut changer le mal en bien. Il a la faculté de changer le mal en bien. Et si quelqu'un ne l'a pas rencontré dans les bons moments, alors au moins qu'il puisse le rencontrer pour sa paix, pour sa consolation dans les mauvais moments. Donc on a toujours une influence que l'on peut exercer à ce niveau-là. Et puis, il est question également de garder la foi en toutes circonstances. C'est important. Garder la foi et croire que Dieu travaille toujours dans l'invisible. Verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Je vais vous raconter quelque chose qui m'avait surpris au début où on était à Gap. Vous savez qu'on est arrivé en 2008 et en 2008-2009, il a énormément neigé. Vous vous en souvenez ? Un cumul de 60-70 cm sur l'hiver 2008-2009. Alors nous, ça nous convenait très bien. On a bien aimé ça. D'ailleurs, même quand on n'avait rien à faire, on enfilait les chaussures et on sortait pour aller marcher dans la neige. Et sous la neige, quand ça tombait, parce que ça nous plaisait. Le fait est que le printemps est arrivé et je me souviens très bien, je viens à pied de la maison, je me souviens très bien qu'à l'angle du théâtre, il y a une pharmacie et il y a la température affichée dehors. Il y a un panneau qui sort avec la température. Et je pars de la maison, il faisait un soleil bleu, mais c'est si beau en hiver après la neige, magnifique. Et je pars de la maison, j'avais quand même la grosse boule, le bonnet, les gants, bien équipé. Je ne suis pas sorti de la résidence, je sens le froid qui me rentre dans les jambes. Je me dis, là, il fait froid quand même. Je n'avais pas l'habitude. Je me dis, ouh, il doit faire froid quand même. J'arrive au théâtre, à la pharmacie, je regarde. J'avais jamais vu ces chiffres de ma vie. Moins 13. Moins 13. Je me suis habitué. Je sais que ça arrive. Moins 13. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça que j'avais froid. Moins 13. Et je me dis, mais je vais arriver à l'église, mais il n'y aura personne. À moins 13, il n'y a personne. Je suis arrivé à l'église. Quand le culte a commencé, c'était plein. Vous étiez tous là. Des jeunes, des vieux, tous. Et là, ça m'a fichu un coup. Je me suis dit, ben, comme quoi, hein. Ouais, toi, tu te dis, oulala, il fait froid, ils vont pas venir. Non, non, les gars, pensez, on les effraie pas avec de la neige, avec du froid. Hein. Ils sont là. S'habituent, ils sont là. Si on observe le vent, si on observe les nuages, si on observe le temps, et on se dit, oulala, il va faire mauvais, je vais pas le faire, je vais pas y aller. Non, ça marche pas. Hein. Il y a quelques années, vous vous souvenez, nous avions la famille Leroy avec nous. Vous vous souvenez que Étienne était normand. Et en Normandie, il pleut beaucoup. Hein. Et puis, un jour où on était parti jouer au foot avec le club qui avait été monté avant lui, d'ailleurs, qu'il avait intégré, un jour, on discutait et je lui dis, mais dis-moi, du sport, parce que ça m'est venu à ce moment-là, du sport chez toi, mais t'en faisais jamais. Il me dit, pourquoi? Ben, il pleut. Moi, quand il pleut, je ne sors pas. Hein. Je ne sors pas courir, je ne sors pas jouer. Ça me gêne, j'aime pas. Je suis peut-être le seul, mais et il me regarde en riant, il me dit mais non, heureusement qu'on sort, parce que si on devait attendre qu'il ne pleuve pas, mais on ne sortirait jamais de chez nous. Hein. Donc, il pleut pas, on ne voit même pas le temps. On sort, on a prévu de faire ça, prévu d'aller balader, prévu d'aller faire du sport, prévu de faire une course, on y va. Et quand on sort, il pleut, on ne voit même pas qu'il pleut, on ne s'en rend même plus compte. Heureusement, hein, heureusement. Aujourd'hui, quelquefois, on regarde les nuages et on se dit, oulala, il va faire mauvais. Mais de vous à moi, est-ce que ce sont des nuages sans eau ou des nuages avec eau? D'ailleurs, ils sont tellement au-dessus de notre portée qu'on ne peut pas les maîtriser. Si l'orage vient, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire, vous devez courir vite ou alors vous protéger si l'orage vient. C'est hors de votre portée. Mais ce que je trouve terrible, c'est que ce qui est hors de notre portée, finalement, parce qu'on ne peut pas les maîtriser, malgré tout, eux exercent un pouvoir sur nous. Parce que quelquefois, le fait d'avoir vu ces nuages, ça nous a laissé à la maison, on a dit « j'y vais pas ». Le fait d'être devant une adversité, on a renoncé, on a dit « j'y vais pas parce que j'ai peur ». Finalement, on ne peut pas maîtriser les événements, mais ne laissez pas les événements vous maîtriser, sinon vous ne ferez plus rien. Jette ton pain à la face des eaux. Regarde, l'arbre est tombé, il est tombé, toi continue, sers-toi de cet élément-là et puis trouve quelque chose à faire. Et puis dans le fond, on a besoin de garder la foi. Je vais sortir, mais les nuages grondent, j'y vais quand même. Je vous ai envoyé, pour ceux qui êtes dans le groupe, hier, le témoignage d'Élisée, qui voyait dans l'invisible une armée de chevaux et de chars de feu, alors que son serviteur ne voyait rien du tout. On peut considérer la fidélité de Dieu, c'est certain. Ne laissons pas les événements avoir la main sur notre vie. Non, ce serait tellement dommage. L'apôtre Paul dit, et je vais arriver à ma conclusion dans un moment, un petit moment. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue, frères et sœurs. Et continuons de marcher par la foi. Même si tout ce que je vois ne m'encourage pas, je veux marcher par la foi et pas par la vue. Ce que je vois me démoralise, ce que je crois me fortifie. Ce que je vois m'enlève le courage, ce que je crois va me redonner du courage. Que Dieu nous aide. Amen. Et je termine, c'est la conclusion. Évidemment, c'est le dernier verset, le verset 6 du passage que l'on avait lu dès le matin. Sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, nous ne croyons pas pour rien. Je l'ai dit la semaine dernière, nous ne croyons pas en vain. Mais frères et sœurs, nous ne servons pas Dieu en vain non plus. Nous ne le glorifions pas en vain. Ceux qui vous disent, tu veux servir Dieu, tu veux marcher avec Dieu, mais un jour ce sera terminé, tout ça, ça disparaîtra. Ils se trompent. Ils se trompent. Nos œuvres, nous suivrons, nous serons dans l'éternité. N'est-ce pas dans ces paraboles des évangiles que Jésus dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Alors, frères et sœurs, nous ne travaillons pas pour nous non plus. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31, je vous le cite, vous le connaissez certainement ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, c'est la même chose dans nos relations fraternelles les uns avec les autres ou avec ceux que nous rencontrons. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, mais il est précisé pour la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu que l'on fait les choses. Ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour nous. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour les 12 ans qui viennent, les 20 ans, les 40 ans qui viennent, si le Seigneur tarde, servons et servez Dieu. Et servez-le encore. Et servez-le toujours avec joie et avec zèle. Ne vous lassez jamais de le faire. C'est ça, votre force. La force des justes, c'est cela. C'est de mettre et d'avoir mis sa vie entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et c'est de demander à ce Dieu Tout-Puissant, guide-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Et si vous faites cela, si nous continuons à faire cela, eh bien nous ne serons pas sans espérance. L'apôtre Paul dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais c'est pour l'éternité que nous y croyons et que nous nous sommes attachés à lui. Alors que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide encore. Et dans l'avenir, et dans les jours, et les semaines, et les mois qui viennent, et les années qui viennent, on ne s'oubliera pas, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'oublier, ni les uns ni les autres, mais on gardera à l'esprit ce souvenir de cette Église qui combat, qui va de l'avant, qui veut voir la gloire de Dieu, et persévérer encore. Et je n'aurai pas de plus grande joie, évidemment, que d'apprendre qu'il y a eu des dizaines de guérisons, délivrances, miracles, baptêmes, 2 cultes, 3 cultes, pas parce qu'on limite l'emplacement, mais parce qu'il y a trop de monde, on se réjouira de cela avec vous, parce qu'on sait que l'œuvre de Dieu est belle et qu'on entre dans des moments, dans une période, dans des temps où les gens auront besoin de réponses. L'Évangile est la réponse. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la seule réponse, c'est la bonne réponse. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et que Dieu vous fortifie encore. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Seigneur, tu nous demandes d'avoir l'intelligence des temps que nous vivons pour savoir quoi faire. Tu nous demandes également de garder la foi, d'être capable de voir dans l'invisible et de ne pas nous économiser ni dans nos efforts, ni dans nos luttes et nos batailles. Nous voulons nous y donner, j'ai presque envie de dire, à corps perdu pour la gloire de ton nom. Et puis tu nous demandes de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, notre propre sagesse et permets-nous de le faire encore et toujours. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous avons décidé de suivre et de servir un jour. Bénis mes frères et sœurs, bénis les familles représentées dans cette salle-là maintenant. Et puis, chaque dimanche, il y a des luttes et des combats dans les maisons, il y a des batailles personnelles, mais nous croyons que tu agis et que tu n'as pas dit ton dernier mot, mais que dans bien des circonstances et situations, tu vas te glorifier encore. Merci d'étendre ta main.